Bonjour, bonjour, Yves au micro, pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à sa tradition en vous rappelant, en vous apprenant peut-être que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer les petites images depuis un sacré moment de façon sonore ou musicale. Si j'oublie mon texte, alors vraiment c'est la fin de tout depuis déjà un sacré bout de temps, la fin du 19e siècle ou quelque part dans ces eaux-là. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, une émission thématique qui s'intéressera à un sympathique moyen de transport, le train, ô combien photogénique et qu'on a vu à de nombreuses reprises au cinéma. Donc nous allons piocher, sans souci de chronologie, sans souci plus avant de thématique, dans les films qui mettent en vedette d'une manière ou d'une autre le train. Voilà, j'espère que le thème est assez compris et on va évidemment commencer par un film qui sans doute vient tout de suite à l'esprit dès qu'on prononce le mot train, un film qui en anglais assez bizarrement s'appelle High Noon. C'est pas bizarrement par rapport au scénario, c'est bizarrement par rapport à sa traduction en français. High Noon qui veut dire vous l'apprends-je, midi, et qu'on a traduit en français par Le train sifflera trois fois, un western de Fred Zinman tourné en 1952 et qui mettait en vedette Gary Cooper et Grace Kelly avec à leur côté Thomas Mitchell, un acteur que vous avez peut-être oublié si jamais vous l'avez connu, mais Thomas Mitchell, c'était tout simplement le père de Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent. Donc voilà, tout est dit. Le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, Thomas Mitchell était dedans. Et donc, pendant toutes les années 30, 40 et même 50, eh bien, il poursuivit sa carrière de solide second rôle, tandis que Gary Cooper, lui, évidemment, en 1952, était déjà une vedette consacrée. Et d'ailleurs, il obtint, pour son rôle de Will Kane dans Le train sifflera trois fois, son second Oscar. Il n'en a pas eu autant qu'il ne l'aurait mérité. Un film dont le scénario était signé Carl Foreman, et si je le mentionne, c'est que le train sifflera trois fois est assez réputé pour être un de ces westerns politiques qui, en utilisant un des genres les plus emblématiques du cinéma américain, le western, eh bien, voulait dire des choses sur leur époque et non pas sur le passé de l'Amérique. Et en espèce, en 1952, eh bien, l'époque, c'était celle de la chasse aux sorcières menée par l'ignoble sénateur McCarthy, c'est-à-dire l'idée en gros que les États-Unis étaient menacés par le communisme, qu'il y avait des communistes un peu partout dans le pays pour le saboter, et parmi les un peu partout, eh bien, il y avait Hollywood qui, pour le sénateur McCarthy, était un repère de réalisateurs et scénaristes rouges qui s'efforçaient d'instiller insidieusement des idées anti-américaines dans leurs propos. Tous ceux qui verront une connexion avec les campagnes de mails infamants ou les manipulations par Facebook, eh bien, ils auront bien raison. Les États-Unis changent, mais les bonnes vieilles méthodes, elles, ne changent pas. Et donc, Carl Foreman s'efforçait dans son film de dénoncer par ce biais-là cette chasse aux sorcières, un film qui racontait l'histoire d'un shérif qui a épousé une Quaker, interprétée donc par Grace Kelly, qui est donc une adepte de la non-violence. Un shérif qu'un train doit, par lequel je vais y arriver, trois bandits doivent arriver par un train qui doivent éliminer le shérif qui est devenu gênant, bien évidemment. Tout le monde l'abandonnera et bien évidemment, il se retrouvera seul et bien évidemment, oh, spoil, il se triomphera puisque c'est quand même Gary Cooper dont je vous parle. Le film, donc, il était signé de Fred Zinman, un réalisateur subtil des années 50 et plus. Et ce qui fit le succès de cette, entre guillemets, petite production, puisqu'il y avait quand même Gary Cooper en star, eh bien, ce fut la musique signée de Dimitri Tiomkin, et notamment un air que vous n'avez certainement pas oublié, même si vous n'avez jamais entendu parler. Je vous le laisse écouter, comme ça vous me direz ce qu'il en est dans 24 notes secondes.
Do not forsake me, oh my darling, on this our wedding day. Do not forsake me, oh my darling, wait long. The noonday train will bring Frank Miller. If I'm a man, I must be brave.
and I must face that deadly killer. A liar, coward, a craven coward, a liar, coward in my grave. Oh, to be torn twixt love and duty, supposing I lose my fair beauty. Look at that big hand move along near in high noon. He made a vow while in the state's prison, married would be my life or his, and I'm not afraid of death, but oh, what will I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling. You made that promise when we wed. Do not forsake me, oh my darling. Although you're grieving, I can't be leaving until I shoot Frank Miller dead. Wait long, wait long. Way long, way long.
C'était Tex Ritter qui chantait « Do not forsake me, my darling ». Oh, my darling, un extrait de la bande originale de High Noon en français. Le train sifflera trois fois, une musique signée Dimitri Tiomkin, mais pas du tout dans la manière d'habitude, beaucoup plus lyrique, beaucoup plus épique, beaucoup plus orchestrale de Dimitri Tiomkin. Ici, juste une guitare, quelques percussions et puis la voix de Tex Ritter qui vous raconte l'histoire, en fait. Si vous comprenez l'anglais, mais il vous raconte le dilemme du personnage principal qui doit tuer trois méchants bandits, dont on est dénommé Frank Miller, qui est nommément cité dans la chanson, alors que sa femme, elle, est adepte de la non-violence. Oh, vraiment, difficulté. Et un peu bizarrement, puisque « Do not forsake me, oh my darling », ça ne veut pas dire ça, eh bien, en français, on a traduit par « Si toi aussi, tu m'abandonnes », en supposant qu'en fait, la femme avait déjà fait son choix. Il y a parfois des mystères, c'est comme pourquoi on appelle ça « Le train sifflera trois fois ». Certes, le train siffle trois fois, mais High Noon, plein midi, c'était pas mal non plus. Donc pour ce film, un grand, grand classique du cinéma américain pour ouvrir cette émission de 24 notes secondes consacrée au toutou, au train. Et on va la poursuivre avec quelque chose de complètement différent. Alors aussi bien en termes d'époque que de casting, que d'esprit, puisqu'on va écouter la bande originale d'un film de Wes Anderson tourné en 2007, le cinquième long-métrage de Wes Anderson qui s'appelle The Darjeeling Limited in English, et à bord du Darjeeling Limited, vous l'avez compris, le Darjeeling Limited, eh bien, c'est un train, un faux train, à vrai dire, qui n'existe pas là-bas, quelque part en Inde, dans laquelle prennent place trois frères, incarnés par Owen Wilson, Adrian Brody et Jason Schwartzman, qui entreprennent un long voyage en train à travers le nord de l'Inde après la mort de leur père. Alors comme souvent, c'est dans la veine loufoque et tendre de Wes Anderson, eh bien, il y a une intrigue assez linéamenteuse, on va appeler ça comme ça, avec des péripéties toutes plus bizarres les unes que les autres, mais fort drôles, et puis aussi une bande originale, mais alors de ouf, puisque on y mêle les musiques de Satyajit Ray, le grand réalisateur indien, aux Kings, on y mêle, je prends ma petite fiche tellement il y en a, Claude Debussy avec Ludwig van Beethoven, et on y mène Joe Dassin avec Peter Sarsstedt. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne sais même pas ce qu'on va écouter. Je vous débrieferai après. Mais quand même, je sais qu'on va écouter un extrait de la bande originale d'abord du Darjeeling Limited, à bord de 24 notes secondes. We'll be right back. Ah ben les percussions, je les laisse au maximum tellement c'est bien. Et ben oui, c'était les Kings, vous les avez sans doute reconnu. La chanson, elle s'appelle Stranger et c'est un extrait de la BO de ouf du Darjeeling Limited, un film de Wes Anderson tourné en 2007. Un réalisateur dont chaque nouveau film est une nouvelle merveille. Alors, l'homme a beaucoup utilisé, mais c'est au bon sens du terme. Alexandre Desplat, notre Alexandre Desplat national, pour ses bandes originales. Grâce à lui, d'ailleurs, Alexandre a obtenu son premier Oscar pour la musique de Grand Hôtel Budapest. Mais il a aussi, Wes Anderson, il continue à le faire, beaucoup utiliser d'autres musiques dans ses films. Et vraiment, celle du Darjeeling Limited est un régal pour notre émission consacrée au train. Et on va, c'est le charme de l'émission, passer à tout à fait autre chose, tout en restant dans des repères chronologiques à peu près comparables, puisqu'on va écouter maintenant un extrait de la bande originale d'un film sorti en 2017, un film de Kenneth Branagh, qui s'en octroyait en plus le rôle principal, un film intitulé « Le crime de l'Orient Express », « Murder on the Orient Express », certainement l'un des plus fameux romans de la grande reine du crime qui était Agatha Christie, un roman publié en 1934, mais oui, bah à l'époque il y avait encore le vrai Orient Express, qu'elle avait d'ailleurs pris, puisque la dame n'était pas sans avoir un peu d'argent. Et donc ce roman, dont je me garderai bien évidemment de vous divulgâcher la fin et la résolution, eh bien ce roman, il met en scène Hercule Poirot, le petit détective belge et insupportable de prétention, mais par contre d'une acuité telle que sans faillir à la fin du film, dans une scène où on a tous les acteurs et actrices qui sont réunis, eh bien, ils désignent le coupable. Et dans le crime de Orient Express, eh bien, le coupable. Mais non, je ne vais pas vous le dire. Alors, dans un film comme le crime de Orient Express, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de personnages qui ont des petits rôles épisodiques. Et du coup, ça permet d'avoir une tête d'affiche prestigieuse à bon compte. Ce qui était le cas du film de Kenneth Branagh, puisqu'on retrouvait, excusez du peu, et je ne cite pas tout le monde, dans les rôles principaux, Penélope Cruz, Johnny Depp, Willem Dafoe, Olivia Colman, Derek Jacobi, Michele Pfeiffer et quelques autres. Et donc Kenneth Branagh dans le rôle d'Hercule Poirot. Alors, les vrais amateurs d'Agatha Christie et les vrais amateurs d'Hercule Poirot, eh bien, tiqueront, puisque vraiment, Kenneth Branagh, ce n'est pas du tout Hercule Poirot, il faut bien le dire. L'homme est beaucoup trop beau, beaucoup trop de charisme et pas assez de prétention pour pouvoir être crédible, finalement, dans le rôle d'Hercule Poirot. Et un rôle, d'ailleurs, on avait à ce sujet consacré une émission que David Suchet à la télévision a rendu immortel. David Suchet et Hercule Poirot pour la fin des temps, quelles que soient les adaptations cinématographiques. Il n'empêche que le film de Kenneth Branagh est un divertissement plutôt agréable, bien léché, avec quelques effets spéciaux numériques un peu agaçants, mais il y a quand même un vrai train. Et puis surtout, il y a une magnifique musique signée du vieux complexe de Kenneth Branagh depuis des années, Patrick Doyle, une musique dont je vous propose évidemment un extrait dans 24 notes secondes.
Thank you.
Un extrait de la très belle, très lyrique partition de Patrick Doyle, pardonnez-moi, pour Le Crime de l'Orient Express, un film de Kenneth Branagh sorti en 2017, dans lequel on voyait l'Orient Express, donc un de ces trains de légende, train qui, ça tombe bien, constitue le sujet de notre émission de 24 notes secondes de ce jour. Et on va enchaîner avec un autre train, alors là, cette fois, un train de science-fiction, le transpersonnage Snowpiercer, un film de Bong Joon-ho sorti en 2013 et adapté d'une bande dessinée française, s'il vous plaît, qui s'appelait Le transpersonnage, une bande dessinée dont le scénariste était signé, je vais y arriver, de Jack Loeb, qui était sorti en 1982. Donc, autant dire que le projet a mis longtemps à percer, l'histoire d'un train qui parcourt le monde glacé à la suite de tentatives de géo-ingénierie instituées contre le réchauffement climatique et qui ont mal tourné. Ben, ça tombe bien, la géo-ingénierie, on en parle beaucoup en ce moment. Donc qui sait, peut-être que ce qui dans le film est de la science-fiction, eh bien, ne le sera plus dans quelques temps. Et donc on vivra tous dans un train, mais évidemment les premières classes devant, les troisièmes classes derrière. C'est d'ailleurs tout le sujet du transpersonnage, un film du réalisateur Bong Joon-ho, peut-être plus connu pour Memories of Murder, The Host ou Mother, des films cultes du cinéma coréen, et qui avait obtenu à la fois des moyens considérables et un temps de tournage très court pour ce film. Il n'était pas question de tourner en Corée, où il n'y avait pas vraiment les paysages pour. Du coup, le film fut tourné pour ses extérieurs en Autriche et pour ses intérieurs au fameux studio Barrandov de Prague, en République tchèque, des studios qui existent depuis les années 30 au moins, puisqu'il fallait un très très grand studio, je veux dire très très long studio, pour accueillir eh bien, les wagons du train, puisque même s'il y a des effets spéciaux, il y a aussi beaucoup de vrai dedans. La musique de ce film a été signée de Marco Beltrami, et je vous propose eh bien, d'en écouter un extrait, Snowpiercer dans 24 notes secondes.
Thank you.
Voilà un extrait très étrange de la bande originale signée Marco Beltrami du Snowpiercer de Bong Joon-ho, sorti en 2013. Et on va se quitter dans cette émission de 24 notes secondes en écoutant un extrait de la bande originale d'un film sorti lui en 2004, un film réalisé par Robert Zemeckis avec Tom Hanks dans le rôle principal, un film intitulé en français Le Pôle Express ou Boréal Express, adapté alors de ce que ma petite fiche appelle improprement un roman, mais plutôt un livre pour enfants. Beaucoup de parents ont raconté à leurs enfants l'histoire de Boréal Express, scène d'un jeune garçon qui prend un train pour aller rencontrer le Père Noël puisqu'il commence à douter de son existence et ce n'est pas bien. Le film est tourné en une espèce de procédé un peu bizarre, notamment utilisé par Steven Spielberg dans son adaptation pas très réussie d'un album des aventures de Tintin. Et du coup, Tom Hanks interprète plein de rôles différents. Il y a à la fois le jeune héros, son papa, le chef du train, Scrooge, personnage dickensien sur lequel je passe, et même le Père Noël. Bon, Tom Hanks en Père Noël, ma foi, ça n'est pas plus mal. Le film n'est pas forcément très convaincant, mais la bande originale est vraiment du lyrisme pur façon Christmas Tales. Elle est évidemment signée du vieux complice de Robert Zemeckis, Alan Silvestri. Et on va écouter un extrait de cette bande originale, le Pôle Express, dans 24 notes secondes. Voilà, youpi, Jingle Bells, Happy Christmas, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui, au revoir, à bientôt, c'est you, bye bye.